VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakis avec vous dans cette édition du jeudi 10 mars 2022. Donc voici d'abord les titres. En Guinée, des dizaines de partis politiques menacent la junte de descendre dans la rue.
Et les partis politiques sont sûrement arrivés à la conclusion qu'il y a un état de pourrissement.
Nous aurons l'analyse du professeur Kabiné Fofana au Mali. La junte ouvre une enquête sur l'assassinat sur son territoire de plusieurs ressortissants mauritaniens, mais indique que rien ne met en cause l'armée de Bamako. Au Kenya, 16 mototaxis maintenus en détention après l'agression d'une femme. Depuis Varsovie, en Pologne, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, déclare que l'OTAN est devenue plus forte et la Russie plus faible à cause de l'agression russe en Ukraine. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et le sport, mais d'abord le journal. En Guinée, des dizaines de partis parmi les plus représentatifs de Guinée exacerbés par les humiliations ont menacé mercredi d'appeler à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Les partis jusqu'ici réservés reprochent désormais à la junte une vision unilatérale. L'inclusivité et la justice ne semblent plus être la boussole de la junte, accusent les partis dans une déclaration transmise à l'AFP. Deux leaders de l'opposition avaient reçu le mois dernier un ordre d'expulsion de leur résidence personnelle dans le cadre d'une vaste campagne de récupération des biens de l'État. Force est de constater que la junte s'écarte des règles et des principes de l'état de droit et traîne volontairement le pas dans l'accomplissement des diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel, poursuivent-ils. Une cour de répression des infractions économiques instaurée par les autorités est devenue un instrument pour disqualifier des leaders politiques gênants et porte atteinte à leur dignité humaine, disent-ils. Ils se réservent d'utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations pacifiques, pour obtenir satisfaction et demandent au peuple de se tenir prêt.
Le gouvernement malien a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat sur son territoire de plusieurs Mauritaniens. Bamako a assuré que rien pour l'instant ne permettait d'accuser des soldats maliens. Les précisions de Mohamed Ouf.
Dans un communiqué publié mercredi soir, le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a réagi aux dénonciations de la Mauritanie qui a accusé mardi l'armée malienne d'actes criminels récurrents contre des Mauritaniens. Le gouvernement malien dit condamner énergiquement, je cite, « ces actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente qualité des relations entre les deux pays ». Selon le communiqué, après avoir échangé avec le président mauritanien, le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a ordonné l'ouverture d'une enquête et a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais. Les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour retrouver les coupables, assure le communiqué, qui ajoute aussi que, à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes. Le gouvernement malien juge troublant que ces événements surviennent au moment où la junte entreprend un effort de rapprochement avec la Mauritanie, pays qui leur permettrait de contourner l'embargo imposé en janvier par la CEDEAO.
Effectivement, Mohamedou, une mission conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et comprenant le colonel Abdoulaye Maïga, ainsi que le chef d'état-major et le chef de l'agence de renseignement, le général Oumar Diarra et le colonel Modibo Koné, doit se rendre vendredi et samedi en Mauritanie. De nouveaux manifestants anti-putsch ont été tués jeudi à Khartoum, alors que les représentants de l'ONU et de l'Union africaine estimaient que le pays était en grave danger depuis le putsch qui a exacerbé violence et crise économique. Les deux diplomates ont appelé les civils à s'unir, car sans cela, ont-ils prévenu, ils vont abandonner l'avenir du pays aux militaires. L'ONU en Libye a mis en garde jeudi contre toute provocation à la suite d'informations sur une mobilisation de groupes armés autour de la capitale de Tripoli, en pleine crise politique avec deux gouvernements concurrents revendiquant le pouvoir exécutif. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a renouvelé son appel au calme et souligné l'importance de préserver la stabilité, exhortant toutes les parties à s'abstenir de toute action susceptible d'engendrer des affrontements armés. Au Kenya, un tribunal ordonne le maintien en détention pour 2 semaines de 16 conducteurs de mototaxi arrêtés cette semaine après l'agression d'une automobiliste. L'affaire a soulevé une vague d'indignation dans le pays, n'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Les juges ont pris cette décision le temps que la police termine ses investigations sur cette affaire qualifiée d'intérêt public. Les procureurs ont indiqué que la victime, une diplomate basée à Nairobi, a également été dépouillée d'un téléphone d'une valeur de 1 000 euros environ. La police recherche toujours l'homme considéré comme le meneur de l'agression. La jeune femme a été violemment agressée vendredi en plein jour dans la capitale Nairobi par un groupe de mototaxis après un accident de la circulation. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où on la voit hurlant pour se défendre au volant de sa voiture alors que des hommes essayaient de la dévêtir a provoqué un scandale au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a demandé la plus grande sévérité et ordonné un recensement général des mototaxis connus sous le nom de Boda Boda. Au Kenya, les agressions sexuelles sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, tandis que les vols avec violence sont passibles de la peine de mort. Les Boda Boda ont été classés en 2019 comme une menace pour la sécurité nationale par une unité de recherche du ministère de l'Intérieur.
En Afrique du Sud, le juge Raymond Zondo, qui a dirigé la commission d'enquête sur la corruption d'État sous la présidence de Jacob Zuma, a été nommé jeudi à la tête de la Cour constitutionnelle du pays. Monsieur Zondo prendra ses fonctions le 1er avril, alors que la commission qu'il préside préparera son 4e et son dernier rapport.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a approuvé ce jeudi les appels des dirigeants mondiaux pour une enquête internationale sur les crimes de guerre russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Madame Harris a réitéré la nécessité d'une enquête avant de rencontrer à Varsovie le président polonais. Son appel intervient au lendemain d'une frappe aérienne russe sur une maternité de la ville de Mariupol qui a tué au moins 3 personnes, dont un enfant, selon des responsables ukrainiens. La vice-présidente américaine a également annoncé dans un communiqué une nouvelle aide humanitaire américaine de 53 millions de dollars pour, je la cite, « soutenir les civils innocents touchés par l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie ». Dans le même temps, les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de l'offensive. L'armée russe poursuit sa progression et ses chars sont désormais aux portes de la capitale Kiev.
L'armée russe a qualifié jeudi de mise en scène de nationalistes ukrainiens la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Les États-Unis et ses alliés européens pourraient imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, a déclaré jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, évoquant les atrocités contre les civils qui semblent s'intensifier. Elle a par ailleurs estimé que les sanctions prises à ce jour ont dévasté l'économie russe. Les pays du G7 ont appelé jeudi les pays producteurs de gaz et de pétrole à augmenter leur livraison pour faire face à la hausse des prix de l'énergie au risque de pénurie liée à l'invasion de l'Ukraine. L'Iran a affirmé jeudi que les États-Unis avaient formulé de nouvelles exigences pour relancer l'accord sur son programme nucléaire et les a accusés de compliquer les discussions après que Moscou a déjà réclamé des garanties supplémentaires pouvant retarder les pourparlers. Américains et Européens ont dit craindre que les exigences russes retardent une entente. L'accord est censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique en échange de la levée des sanctions économiques qui asphyxient son économie. Le groupe État islamique a désigné son nouveau chef et a prêté allégeance à Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, l'émir des croyants et calife des musulmans. Les décès de l'ancien chef de l'EI ainsi que de son prédécesseur, de son précédent porte-parole, sont également confirmés dans un enregistrement audio publié sur Telegram. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été condamné jeudi à 4 mois de détention administrative par la justice militaire israélienne qui considère qu'il menace la sécurité de la région d'après l'acte d'accusation. Et le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a jeudi jugé coupable en appel de membres présumés du Hezbollah pro-iranien de la mort dans un attentat en 2005 de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Rosine Munezero.
Le gouvernement sénégalais consacrera une enveloppe de 70 milliards de francs CFA au financement du secteur agricole durant la campagne 2022-2023, rapporte l'agence Ecofin. Ce montant validé en Conseil des ministres est en hausse de 10 milliards de francs CFA par rapport à la précédente saison. Le gouvernement compte allouer 41 milliards de francs CFA à l'approvisionnement en engrais sur le marché international au profit des producteurs. Le président américain Joe Biden a officiellement engagé mercredi les travaux sur un éventuel dollar numérique. S'il voit le jour, ce billet vert virtuel pourrait modifier la façon dont on paie ses courses et transfère de l'argent à l'étranger. Contrairement à l'argent déposé sur un compte bancaire ou utilisé pour payer via des applications, le dollar numérique serait inscrit dans les comptes de la Fed et non d'une banque. Il vaudrait la même chose qu'un dollar, contrairement aux crypto-monnaies, souvent soumises à de fortes fluctuations. Les prix à la consommation ont continué leur ascension en février aux États-Unis, l'inflation atteignant un nouveau record au plus haut depuis 1982, portée notamment par la hausse des prix de l'essence avec le début de la guerre en Ukraine. L'inflation s'élève à 7,9% sur un an, au plus haut depuis janvier 1982, selon l'indice des prix à la consommation publié jeudi par le département du travail. À court terme, les prix de l'essence devraient continuer à grimper en mars, puisque le prix du baril se rapproche de son record absolu de 2008.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Pas de match aujourd'hui dans la compétition de la Basketball Africa League qui se joue présentement à Dakar au Sénégal. C'est jour de repos, les hostilités reprennent demain vendredi. Hier, Rwanda Energy Group a crucifié Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée 83-81 avec un shoot assassin de Jean-Jacques Nchobozoa du Rwanda à la dernière seconde alors que le SLAC menait 81-80. Deuxième défaite donc pour le SLAC qui s'était déjà incliné face à l'Union Sportive Monastir mardi. Les Guinéens comptent une seule victoire jusqu'ici arrachée lors du match d'ouverture devant Dakar Université Club. Toujours hier, les Marocains de l'AS Salé ont remporté leur première victoire dans la compétition à Venabou de Ferroviário da Beira du Mozambique, 95-84. Basketball toujours, mais cette fois-ci ici en NBA, Phoenix a dominé Miami 111-90. Ce duel entre les deux leaders de conférence a assuré aux Suns leur place en play-off. Les champions en titre, les Bucks, ont enchaîné un sixième succès consécutif contre Atlanta, 124-115. Les Los Angeles Lakers se sont inclinés face à la lanterne rouge Houston en prolongation 139-130 malgré un triple-double de LeBron James, 23 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. Boston a battu Charlotte 115-101. Les Bulls se sont imposés à Détroit 114-108. San Antonio a perdu contre les Toronto Raptors 119-104. Le Utah Jazz a battu Portland 123-85. Minnesota a pris le dessus sur Oklahoma City, 132-102. Les New York Knicks ont corrigé Dallas, 107-77. Orlando a dominé la Nouvelle-Orléans, 108-102. Et enfin, les Los Angeles Clippers se sont imposés à domicile contre Washington, 115-104. Suite hier des matchs, retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe. Nous parlons donc du football. Un triplé de l'international français, Karim Benzema, a permis au Real Madrid de renverser le Paris Saint-Germain, 3-1 et de se qualifier pour les quarts de finale. Malgré son succès à l'aller 1-0, le PSG, qui a ouvert le score par Kylian Mbappé, quitte donc par la petite porte la compétition qui constituait son objectif numéro 1 cette saison. De son côté, Manchester City s'est qualifié pour les quarts après son match nul face au Sporting 0-0, après avoir étrié les Portugais lors du match aller 5-0. Rugby, la Géorgie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2023 en France. en raison de la suspension de la Russie de toutes les compétitions internationales, annonce l'instance dirigeante du rugby mondial. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie, comme le Bélarus, a été suspendue de toutes les compétitions de rugby internationales. En conséquence, explique World Rugby, les matchs programmés et non disputés de la Russie sont considérés comme abandonnés et donc la Géorgie, les Pays-Bas et le Portugal se voient attribuer 4 points chacun en leur qualité de vainqueurs déclarés de leur match contre la Russie.
Merci Yakuba pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous, place au dossier du jour. En Guinée, des dizaines de partis menacent d'appeler à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays. Dans une déclaration accusatrice transmise à l'AFP, ces partis reprochent à la junte une vision unilatérale. Ils la soupçonnent de chercher à discréditer et humilier leurs leaders en les poussant hors de chez eux au nom d'un programme de récupération de biens de l'État. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint à Conakry le professeur Kabiné Fofana, analyste politique.
Et les partis politiques ils sont sûrement arrivés, pour les signataires bien évidemment, à la conclusion qu'il y a un état de pourrissement essentiellement dû à un manque de visibilité mais aussi de lisibilité sur la transition, notamment sur le contenu mais aussi la durée de la transition. Je pense qu'ils sont aujourd'hui agacés par cela. Et tout ceci a été aussi un peu surdéterminé par le fait que pour certains d'entre eux, il y a aujourd'hui une sorte de spectre d'exclusion qui plane sur leur tête, notamment Sylvain Alain Diallo qui est dans un dossier aujourd'hui au niveau de la CRIEF.
Parlant de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques instaurée par la junte, ces partis politiques-là parlent d'instruments pour disqualifier des leaders politiques gênants. Est-ce que ce sont des menaces individuelles ou réellement c'est une poursuite contre la corruption qui se fait dans ce pays?
Ils font explicitement allusion à Sylvain Alain Diallo dans l'affaire Air Guinée, mais aussi Mamadou Sylla de l'UDG. Et je ne pense pas qu'il soit à ce stade que l'on puisse véritablement dire qu'il y a un projet d'élimination du personnel politique par la CRIEF. Je crois que tout ceci est en réalité la conséquence d'un climat délétère et d'une sorte de désamour qu'il y a aujourd'hui entre les partis politiques et la junte.
Le colonel Mamadi Doumbouya avait dit faire de la justice sa boussole. Est-ce qu'il n'est pas plutôt logique avec lui-même?
D'aucuns estiment aujourd'hui la façon dont le dossier de déguerpissement a été conduit, que l'on a obstrué la dynamique judiciaire, qu'on avait juste besoin de judiciariser la chose et laisser en réalité la justice s'en occuper. Donc, à part ceci, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de problèmes dont on pourrait éventuellement lui reprocher qui serait un manque de volonté de faire justement de la justice à boussole.
Est-ce que ce n'est pas le manque de calendrier clair sur le retour des civils au pouvoir qui crée aussi cette grogne au niveau de certains partis politiques?
Absolument. C'est en réalité le manque de lisibilité sur la transition, mais aussi le fait qu'il n'y a pas un cadre de dialogue formel. Les partis politiques appellent cela de tous leurs voeux. C'est difficile aujourd'hui de comprendre que 6 mois après, il n'y a pas un cadre formel.
La CEDEAO réclamait à la junte un calendrier clair pour le retour des civils au pouvoir. Maintenant, il y a la grogne interne qui s'ajoute. Pensez-vous que cela fasse plier le colonel Mamadi Doumbouya?
Rappelez-vous que lorsqu'il a été question pour la CEDEAO d'envoyer un facilitateur, un envoi spécial, le colonel Mamadi lui-même avait donc dit qu'il n'y avait pas de nécessité parce qu'il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, la crise, elle est visible, elle se vit. Donc je pense que ce serait pas intelligent de la part de Mamadi et du CNRD de relativiser un peu le fait qu'aujourd'hui que la classe politique se trouve pour rejoindre rejointe par la communauté internationale sur tant bien de revendications.
Le professeur Kabiné Fofana, analyste politique, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Affecté durant près d'une décennie par la crise sécuritaire, de nombreuses femmes centrafricaines se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille. Si certaines sont dans les activités génératrices de revenus, d'autres par contre travaillent dur dans des secteurs dominés par les hommes. C'est le cas de Reine Bendima. Elle travaille dans la seule société de distribution d'électricité en Centrafrique. Notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, l'a rencontré son reportage.
Pendant que de nombreuses femmes fêtent à leur manière la Journée internationale des droits de la femme, Reine Bendima s'occupe autrement.
Là, c'est un groupe électrogène. Il fournit 2,2 MW. On le met en service comme un appoint pour permettre à la centrale de Bangui de
fonctionner. Nous rencontrons la jeune femme âgée de 27 ans dans son lieu de travail à l'énergie centrafricaine Enerka. Combinaison de couleur bleue avec l'inscription Enerka derrière, casque de protection sur la tête, elle est dans sa tenue de travail. Devant une grosse machine, elle relève des chiffres qui s'affichent sur un écran.
Je suis ingénieur de travaux en électromécanique. En l'INERCA, je suis chef de car numéro 1 à la sous-station B. Mon travail est que on vient le matin, on est là, on observe les paramètres, la tension, la fréquence, pour voir si il y a dépassement de tension ou que les paramètres ne sont pas normaux. On signale ça pour éviter les déclenchements. Pour contrôler les tensions et les paramètres, on a les tableaux qui sont là en face de nous.
Dans ce secteur dominé par les hommes, les femmes sont rares. Mais Reine compte s'affirmer grâce à ses compétences.
Moi, j'aime trop ce métier parce que quand je vois les hommes faire ça, ça me plaît beaucoup. Et souvent, les filles disent que non, ce que les hommes font, les femmes ne pouvaient pas le faire alors qu'eux-mêmes se trompent. Quand un homme travaille, tu vois, ça te plaît. Une fois aussi, tu fais ce que les hommes font. Il n'y a pas de difficulté. Tu connais ton travail, tu fais ton travail et là, tu es à l'aise.
Maxime Boussa est collègue de Reine. Il a apprécie à sa juste valeur le travail effectué par la jeune femme.
C'est l'une des rares femmes dans le domaine de l'électricité et je la trouve excellente. 75 à 80% elle répond vraiment aux besoins de l'entreprise. Souvent s'il y a des trucs qui la dépassent, elle ne manque pas de faire l'appel à ses supérieurs de pouvoir l'aider.
Chef de car numéro 1 à la sous-section B de l'INERCA, Reine attire aussi l'admiration d'Evody, une de ses collègues.
Reine est travailleuse et surtout une bonne conseillère. C'est-à-dire du moment où tu te sens mal, où tu n'arrives même pas à manœuvrer, du coup où tu es stressé, tu viens t'approcher auprès d'elle, elle va te conseiller. En quelques heures, elle va te réconforter. C'est une femme battante.
Le plus dur pour une femme qui travaille dans ce secteur, c'est la fusion entre la vie professionnelle et la vie de famille. Mère d'une fille de 4 ans, Reine nous partage son expérience.
Ça ne me pose pas de problème, je viens à mon travail. Quand je finis, je rentre à la maison, je fais mes trucs. Parce que moi, je gagne mon argent, là, ça m'aide à m'occuper de mon foyer, même de mes parents aussi.
Après la crise sécuritaire que la République centrafricaine a connue, de nombreuses femmes s'imposent dans des secteurs autrefois dominé par les hommes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La République démocratique du Congo est le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre. Pour les milliers de chauffeurs routiers qui acheminent ces marchandises des mines du Haut Katanga dans le sud-est de la RDC au port tanzanien de Dar es Salaam, la route s'avère difficile, coûteuse et dangereuse. Les routiers déplorent des vols à répétition, des embouteillages récurrents et des péages aux tarifs exorbitants. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le lourd chargement de 4 tonnes de cuivre est arrimé, le semi-remorque Owo est prêt à avaler qu'un cal et quelques 2000 km qui séparent les mines du Haut Katanga du port de Dar es Salaam, d'où la cargaison partira pour l'Asie. Omar Rachidi Katema est un chauffeur routier tanzanien de 57 ans.
Natoka upande wa Congo, En quittant le Congo, je dois payer 200 dollars de parking de Kenyatta, je paye 50 dollars pour le visa, je paye 300 dollars au péage et je débourse la même chose au retour.
Une situation que déplore l'Association des transporteurs routiers internationaux du Haut-Katanga. Pour parcourir ces 400 km, les poids lourds doivent débourser quelques 500 dollars, soit 1000 dollars aller-retour, 10 fois plus cher en moyenne, selon eux, que sur les routes d'Afrique australe. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes que rencontre Omar Rachidi Katema, qui vient de charger 27 tonnes de plaques de cuivre à l'usine Chemaf à Lubumbashi.
Quand on traverse le Congo, les enfants des rues nous font souffrir. Ils nous frappent, ils nous arrachent tout, ils volent notre argent, notre nourriture. Ils nous obligent à leur donner de l'argent. Plusieurs de nos collègues chauffeurs ont même perdu la vie.
Pour éviter aux chauffeurs de transporter trop d'argent liquide, les opérateurs ont de plus en plus recours au paiement d'avance via une banque, des sommes conséquentes à verser au péage qui jalonne la route. Mais les chauffeurs se plaignent des nombreuses tracasseries. Manyazi Djuma Makweba, 50 ans, lui aussi est en route pour Dar es Salaam avec 35 tonnes de cobalt qu'il a chargé chez Tenke Fungurume Mining, situé à 300 km dans la province de Lualaba.
Depuis que j'ai quitté Lubumbashi, j'ai passé 2 heures dans les embouteillages juste pour arriver au péage de Kanyaka. Je ne sais même pas quand je passerai le péage, peut-être ce soir ou demain. Le plus difficile, c'est de passer le péage de Kanyaka. Il y a tout le temps des tracasseries pendant le contrôle des documents. On ne sait pas si le problème vient des contrôleurs ou d'autres services étatiques.
La corporation des transporteurs du Haut-Katanga réclame des patrouilles pour dissuader les malfaiteurs, tout comme elle demande que le nombre de postes de péage soit divisé par 2 et que les prix soient plafonnés et harmonisés entre la RDC et la Zambie voisine. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Ukrainiens demandent plus d'armes pour se défendre 2 semaines après l'invasion de leur pays par les forces russes. Reportage de Karl Abab, récit signé Nanit Sylvanitalani.
Même les hôpitaux ne sont pas à l'abri des frappes aériennes en Ukraine. Cet hôpital pour enfants, dans la ville portuaire méridionale de Mariupol, a été touché. La bombe y a laissé un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Les forces russes encerclent la ville et, selon les groupes de défense des droits humains, les tactiques de siège ont laissé les habitants sans eau courante ni électricité pendant des jours.
Les bombardements incessants de la Russie, y compris contre des civils essayant de fuir, empêchent les gens d'échapper en toute sécurité aux conditions infernales qu'elle a créées.
La vice-présidente américaine Kamala Harris séjourne en Pologne, où le Pentagone vient d'envoyer 2 batteries de missiles Patriot pour défendre l'allié de l'OTAN. Le président ukrainien a demandé à ses alliés d'établir une zone d'exclusion aérienne et de fournir davantage d'avions de chasse de fabrication russe à ses utilisations militaires pour protéger les citoyens des attaques russes.
Il s'agit de la vie des gens. Nous vous demandons de prendre une décision plus rapidement, de ne pas déplacer la responsabilité. Envoyez-nous les avions de chasse.
Les États-Unis ont rejeté une offre surprise de la Pologne, alliée de l'OTAN, d'envoyer tous leurs MiG-29 vers une base américaine en Allemagne pour ensuite être livrés à l'Ukraine. Washington a fait état d'un risque élevé pour les pilotes américains qui achemineraient ces avions en Ukraine.
Nous devons faire attention à chaque décision que nous prenons pour ne pas aggraver le potentiel d'escalade.
Les responsables américains disent qu'ils continueront de consulter leurs homologues polonais alors que les États-Unis envoient des centaines de millions de dollars d'aide et d'armes à l'Ukraine. Alors que le Pentagone a fait savoir que l'ajout d'avions n'était pas le moyen le plus efficace d'aider à défendre le ciel ukrainien, Washington a envoyé des systèmes anti-aériens Stinger. Et le Royaume-Uni dit maintenant qu'il fournira des systèmes de défense sol-air à l'Ukraine.
Nous pensons donc que la meilleure façon de lutter contre cette menace est d'aider les Ukrainiens avec les systèmes de défense Star Strike que nous allons fournir.
Deux semaines après le début de la guerre, de nombreux Ukrainiens se réfugient sous terre, espérant que les défenses de leur pays suffiront à les maintenir en vie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.